Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle ose tout et ça lui réussit. Elle se moque de tout, mais d'abord d'elle-même et aussi de ce public sacré sur lequel, dans sa première vie, elle a régné en tant qu'animatrice périscolaire. Voilà, ce public fait en fait de mini-nous, nos enfants rois adorés dont les travers n'ont rien à envier à ceux de leurs parents. Élodie Pou, bah oui, c'est son nom, c'est pas un pseudo. Élodie Pou ne craint pas l'humour noir et provoque un rire franchement décomplexé. Elle démarre une tournée fleuve en 2021 avec, par exemple, comme ça au hasard, la Cité des Congrès à Nantes les 1er et 2 mars, le Zénith de Pau le 11 mars, le Zénith de Toulouse le 13 mars, oui, des scènes immenses, avant de s'offrir, les 22, 23 et 24 avril, le Casino de Paris avec son spectacle Le Syndrome du Playmobil. Voilà, sa tournée se prolonge en France et en Belgique jusqu'en juin et franchement, faut pas la rater parce que c'est un phénomène.
Europe 1.
Bonjour Élodie Pou.
Bonjour.
Bon, Pou, c'est pas hyper glamour, hein. Mais j'imagine que pour une humoriste, c'est presque inespéré. Vous pouvez jurer que c'est pas un pseudo.
Alors, c'est vraiment moi. On ne choisit pas. Bah, ce qui est bien, c'est que ça reste dans la tête, sans mauvais jeu de mots. Donc,
voilà,
c'est vrai que
sans mauvais jeu de mots.
On m'a jamais dit, par exemple, c'est quoi déjà ton nom de famille? Parce que je l'ai dit une fois, ça reste.
Et puis alors, c'était raccord avec votre première vie en périscolaire.
Ah, parfait. Quand on voit les affiches, les poux sont de retour à la rentrée, on sait que c'est pour nous, c'est ça qui est pratique.
C'est le retour triomphal d'Élodie. Bon, en fait, Élodie Pou, vous leur devez beaucoup à ces gamins chéris mais insupportables qui sont votre cible.
Bien sûr. Sans eux, je n'aurais pas construit ce spectacle. Quand on écrit les premiers sketchs, on fait avec sa vie, avec ce qu'on connaît. Et puis moi, ça faisait 12 ans que j'étais animatrice. Donc,
12 ans ?
Et ouais, j'ai raconté mes petites histoires de gamin et puis ça a plu, donc j'ai continué. Merci les enfants.
Alors j'adore cette phrase. Bon, je vais la dire bien sûr beaucoup moins bien que vous. Mais les enfants, ces êtres merveilleux qui ne possèdent des oreilles que pour décorer leur visage. Ils ne t'écoutent pas avec et on n'a pas le droit de tirer dessus. Donc elles servent à rien. J'adore.
C'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas tirer dessus, c'est interdit. Bon, ça, tant mieux. Mais on a parfois l'impression de parler dans le vide, ouais, d'être un bruit de fond. Comme ils doivent être habitués à voir la télé chez eux en bruit de fond. Parce que finalement, quand on parle, on a l'impression que ça a le même, même impact.
C'est pas rien quand même. Animatrice périscolaire. Et vous l'avez été pendant 12 ans. Précisément, ça consiste en quoi ?
La périscolaire, c'est la petite garderie, entre guillemets, même si on n'aime pas ce mot, qu'il y a avant l'école, après l'école le soir et pour la cantine le midi. En fait, dès que les enfants sont plus dans la classe, mais encore dans l'école, c'est nous qui prenons en charge les enfants.
Donc ça veut dire que c'est plus lourd que en fait pendant la classe, j'imagine.
C'est différent. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas cette fonction d'enseigner aux enfants et que ça reste du fun et du jeu et des animations. Et quand on aime ça et qu'on fait ça bien, on peut passer des très 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 bons moments.
Mais alors, Élodie Pou, quand on a en soi un tel sens du second degré et une veine comique aussi irrésistible, pourquoi passe-t-on d'abord par la case animatrice périscolaire?
Parce que je ne savais pas, moi, que j'aimais bien être sur scène, je n'avais jamais essayé.
Vous ne saviez pas que vous étiez drôle?
Non, pas du tout. Avec les gamins, oui, mais bon, un public d'enfants, on dit pipi caca, on a une standing ovation, donc ce n'est pas bien compliqué. Mais quand j'ai commencé, j'ai découvert le théâtre par hasard, en passant par le conte.
Ouais.
Et c'est là que j'ai découvert que mes histoires de gamins faisaient rire et que je faisais rire et que je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir à ça. Mais il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que ça pouvait être ma vie.
Parce qu'au départ, vous pensiez, franchement, toute votre vie couler des jours heureux au milieu des chahutes maternelles.
Non, je pense que j'aurais quand même pas changé de métier parce que j'aime beaucoup être avec les enfants, mais je pense que j'aurais évolué dans mon propre métier, peut-être dans les bureaux ou quelque chose de plus professionnalisant. Mais le choix a été très très facile à faire finalement. Quand la passion est là, ça demande pas beaucoup d'efforts de tout plaquer et de partir.
Alors, au bout de combien d'années avez-vous commencé à devenir spectatrice de votre vie et noter dans des carnets les faits, les réactions, les répliques surréalistes dont vous étiez témoin de la part des enfants d'ailleurs, comme de leurs parents?
Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis mes premières années de périsco, parce que je sais qu'on les oublie, ces petites phrases super drôles que les gamins disent. Et donc, j'avais des petits carnets comme des journaux intimes. Et donc, je mettais des petites phrases d'enfants et tout ça. Et puis, à la fin des années scolaires, je faisais des panneaux, vous savez, pour la fête de l'école, les parents viennent dans l'école. l'école et voyaient les panneaux avec les meilleures sorties de leurs enfants. Certaines sans le prénom de l'enfant qui les avait dites parce que c'était parfois un petit peu particulier. Mais je sais que les parents aimaient beaucoup ça. Moi, j'aimais bien les conserver. Et donc, j'ai des carnets entiers de photos, d'exemples d'animation et de beaucoup de phrases d'enfants, de parents et de personnel encadrant aussi.
Alors, vous avez travaillé dans des ZEP, des quartiers particulièrement difficiles. La matière dont vous vous servez pour vos sketchs, dans ces zones-là, elle est plus dense encore, elle a plus de relief que dans les beaux quartiers ?
C'est dans les quartiers les plus compliqués que les équipes sont les plus soudées en général.
Oui.
Parce qu'on a besoin de serrer les coudes en tant qu'adulte face à ce qui nous attend. Et c'est donc là qu'on peut le plus délirer. Et c'est là qu'on a besoin le plus, une fois que tous les enfants sont partis, de dire des grosses conneries et de pourquoi pas se moquer d'eux puisqu'ils ne sont plus là et qu'ils n'en souffrent pas. Et nous, franchement, ça nous fait du bien. Tous les gens qui travaillent avec l'humain, hein, que ce soit dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc., ont besoin vraiment à la fin de la journée de décharger tout ce qu'ils ont pris sur eux. Et ça doit être de là que vient cet humour un petit peu tranchant, mais dont les enfants n'ont jamais souffert puisqu'ils n'étaient pas là quand on faisait les blagues, bien évidemment.
Alors, cette mère de famille qui appelle son fils Clitis, parce qu'elle adore Clitis Wood. D'ailleurs, il faut que je le dise quand même. Clitis Wood, elle existe.
C'est plus une légende urbaine. Après, vous trouverez toujours des gens qui vous disent qu'ils ont connu quelqu'un qui s'appelait Merlin pour Merlin Monroe, Clitis pour Clitis Wood, etc. Masturbin et Clitorine pour des jumeaux.
Bien sûr.
Voilà. Personnellement, je n'en ai pas rencontré. C'est de la légende urbaine.
Bon, vous avouez, en fait, les pires trucs que je dis dans le spectacle, c'est pas de moi, hein, c'est d'eux.
J'ai un sketch avec une mère de famille au parc qui dit des horreurs à ses enfants et à son ami, et ce sont des phrases que j'ai entendues moi dire par des parents qui soit étaient au premier degré et là c'est flippant, ou soit avaient le même humour que moi.
Alors, à votre avis?
Ça dépend des fois. J'ai un père un soir qui dit à sa fille « Ça va, tu pleures, j'ai 5 minutes de retard, je t'ai pas laissé pourrir dans un conteneur. » Et c'est vrai que c'est... Connaissant le papa, c'était de la vanne, mais c'est vrai que c'est légèrement déstabilisant comme vanne.
Bon, Élodie Pou, il est temps de vous rejoindre sur scène. Votre one-woman show a pour titre « Le syndrome du Playmobil » et ça donne ça.
Comment survivre à 12 années d'école maternelle ? Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu ? Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race ? Qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois parce que les petits pois, ils sont trop cuits ! Oh, ils sont trop cuits, les petits pois ! C'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard ! Il y a des séquelles. Comment survivre ? Alors, je possède une technique très simple que je préconise vraiment pour tous ceux qui doivent passer du temps avec des petits-enfants. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je picole. Énormément ! Pas d'hésitation, hydratation. Ah, tu passes des journées beaucoup plus intéressantes, hein ? Avec tous les petits-enfants, avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clitis Wood. Parce qu'en fait, il y a des parents, quand tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan. On en connaît tous. Ou avec cette petite fille de 4 ans, qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours « Je suis une princesse !» J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Alors moi, je lui disais, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein.
Bah oui, Kimberley, une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Allez, on retrouve immédiatement premier juré, Élodie Pou.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Cette fille est un phénomène. Mémorisez son nom, Élodie Pou, c'est pas un pseudo. Elle passera en tournée forcément près de chez vous à partir de fin février jusqu'à la fin du mois de juin et elle posera ses valises au Casino de Paris les 22, 23 et 24 avril. Alors, Élodie Pou, vous confessez.
À 20 ans, je ne savais pas que j'étais drôle. Alors, quand et comment l'avez-vous découvert ?
Je confesse. J'ai découvert la première fois que je suis montée sur scène, même pas avec un sketch d'ailleurs, avec un conte, puisque je faisais partie d'un atelier conte.
Ah oui, vous n'étiez pas montée sur scène pour faire rire ?
Ils étaient un peu rigolos, mes contes, parce qu'on se refait pas, mais c'était pas... le but numéro un n'était pas de faire rire, c'était de raconter une histoire. C'était un petit atelier du jeudi soir d'adultes, comme ça.
Vous étiez inscrite ?
Je m'étais inscrite, comme
pour
ça.
Pour écrire des contes, mais pas
voilà.
Des sketchs.
Non, en fait, et en plus, au début, je pensais que c'était pour apprendre à mieux raconter les histoires aux enfants. Et le soir même, je me suis aperçue que c'était un cours de théâtre, quoi, avec d'autres personnes. Et donc, à la fin de l'année, il y avait une petite représentation avec les amis, la famille, tout ça. Et faire monter sur scène, dire ce qu'on a écrit de son côté et voir que ça peut déclencher des rires, ça a été vraiment une révélation. Il y en a, ils vont à l'église et ils s'aperçoivent qu'ils croient en Dieu. Bah, moi, c'était sur scène, là. Ça a duré 6 minutes, mais je me suis vraiment dit, waouh, je veux refaire vite.
6 minutes qui ont provoqué un virage dans votre vie. Alors, on va essayer d'établir une petite chronologie. On va repartir du début de l'histoire, l'enfance. Il paraît que vous avez eu une éducation très libre, décalée carrément, c'est-à-dire
C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui était les devoirs, on n'était pas obligé de les faire, quoi, parce que parents considéraient qu'on venait déjà de passer 8 heures à l'école et que quand on rentre à la maison, c'est pour jouer, c'est pour s'amuser et pas pour se remettre derrière les cahiers.
Et vous avez pourtant de bonnes notes.
Oui, parce que moi, je suis très obéissante, très sage et très scolaire, hein, donc au moins dans l'enfance. Donc, je l'ai fait quand même. Mais voilà, une éducation un peu... T'as envie de t'habiller en garçon, tu t'habilles en garçon. T'as envie de dormir dans la cabane que t'as construite dans le jardin au mois de mars. Vas-y donc, tu reviendras parce que t'auras froid. Voilà, des choses... une certaine liberté.
Tant pour créer.
C'est ça, ça aide, je pense, à rester dans la création et dans la liberté de soi-même.
Alors, vous avez 4 frères et sœurs. Et vous avez grandi entre 2 frères hyperactifs qui, je reprends vos mots, hein, tentaient régulièrement et avec beaucoup d'enthousiasme mais d'application, tentaient donc de mettre fin à vos jours. Ils entreprenaient quoi pour ça, vos 2 frères ?
Alors, le grand était hyperactif, au dernier degré, 10 sur l'échelle de Super Nanny, je dirais.
Et, un tsunami.
Et le petit était vraiment beau, il était très très beau, très très drôle, très très mignon. Donc c'est vrai que les deux, on leur accordait beaucoup 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 d'attention. Et quand on est l'enfant du milieu, c'est vrai que c'est déjà dur à la base. Et quand les deux prennent autant de place, c'est vrai que c'est dur de se faire une place.
Mais alors, pourquoi dites-vous qu'ils tentaient régulièrement de mettre fin à vos
jours ? Il y a eu le feu à la chambre. On joue au cow-boy aux indiens, tu fais le taureau, donc je me suis fait étrangler parce qu'il fallait attraper au lasso le taureau et j'étais le taureau.
Bien sûr.
On joue au coiffeur et puis je te mets du parfum dans les yeux, donc j'ai eu bien mal ce jour-là. On joue à Fort Boyard, donc il faut sortir par la fenêtre du premier étage pour aller chercher la clé que le père Fouras il achetait par là.
Enfin,
voilà. Mon frère était très libre aussi dans sa création personnelle.
Il fait quoi aujourd'hui comme métier ?
Il vend des machines de nettoyage à vapeur.
D'accord. Bon, alors, vos parents, qui étaient très jeunes, ils étaient réceptifs à l'humour ? Ils étaient en demande d'humour ?
Oui, je me souviens par exemple que j'ai grandi avec une radio concurrente à la vôtre en permanence à la maison et dès qu'on rentrait dans la voiture, c'était des sketchs.
Ouais.
Maman est quelqu'un de très drôle.
Ouais.
Et du coup, ouais, je pense qu'on a grandi aussi avec de la blague, avec du rire, avec des bagarres de yaourt à la fin du repas dans la cuisine, quitte à la nettoyer après, avec une certaine folie comme ça.
Ah ouais, très joyeuse.
Voilà. Mais
alors pourquoi déménagez-vous sans cesse ?
Mes parents, la bougeotte, sans raison particulière. Un soir, on rentrait, puis ils nous disaient on déménage, on va à tel endroit. Donc, c'est vrai que j'ai par exemple fait ma primaire et mon CM2 dans 4 villes et 4 écoles différentes. Ce qui nous semblait tout à fait normal pour nous, parce qu'on a, quand on grandit d'une certaine manière, on a l'impression que c'est normal. Et donc
certes, mais c'est pas évident pour se faire des amis et les garder.
Ça apprend à se les faire assez rapidement. Malheureusement, à ne pas les garder. C'est vrai que moi, j'ai pas d'amis d'enfance, par exemple. Mais ça apprend à s'adapter à des milieux très différents assez vite.
Alors, Élodie Poux, vous qui, au sein de votre famille, donc faisiez, paraît-il, la babysitter gratuite, vous avez poursuivi à l'âge adulte, mais cette fois-ci avec des feuilles de paye, en devenant animatrice périscolaire. Et en 2009, vous nous l'avez raconté rapidement, vous avez décidé de vous inscrire à un atelier d'art du conte. Voilà, le conte qui, donc, est fait d'un matériau très éloigné de celui de l'humour. Mais je voudrais savoir comment l'humour a-t-il fini par infiltrer tout ça, et même dévorer tout ça. Parce que vous dites des contes sur scène, et puis ensuite, ce sont des sketchs absolument hilarants, humour noir total. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ?
Mais cet atelier conte, j'y suis restée 4 ou 5 ans, jusqu'à ce que la formatrice elle-même me dise « il faut que tu ailles faire autre chose, parce que là, j'ai plus rien à t'apprendre, en fait. Il faut aller à l'impro, il faut aller peut-être au café-théâtre. » Et donc, il y avait un café-théâtre dans la ville où je vivais, des cours de café-théâtre. Alors, je me suis inscrite.
Ouais.
Et là, voilà, c'est vraiment l'année qui a changé ma vie, parce que cette année de cours, je me suis vraiment aperçue que ce que j'aimais, moi, c'était faire marrer. Vraiment faire rire, écrire des personnages, incarner des personnages, mettre une perruque, être quelqu'un d'autre. Et voilà, et j'étais très, très à l'aise dans ce groupe-là. Ça a vraiment été une année formidable.
Alors, la meilleure façon d'apprendre ce métier, bien sûr, c'est de le pratiquer.
Exact.
Et vous avez donc fait plein de scènes ouvertes. Vous avez joué dans des bars, vous avez joué dans des hôpitaux. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus complexe ?
Pas un hôpital, un hôpital psychiatrique. C'est encore mieux.
Non. Attendez, des sketchs dans des hôpitaux psychiatriques. Ah,
c'était compliqué, ouais. Dans des restos, debout sur une
table. Mais qui avait organisé ça ?
Un des animateurs qui devait avoir envie de leur faire faire des activités.
Bon, et devant ce public singulier.
Je ne sais pas si on peut appeler ça un public, hein, il n'a pas compris grand-chose.
Voilà, c'est pour ça que je dis singulier, avec pudeur. Mais vous étiez reçu comment ? Accueilli comment ? Observé comment ? Les rires partaient là où ce n'était pas drôle.
Il y avait la
consternation lorsque normalement... tout le monde devait
en fait, au début, on accepte tout parce que les lieux qui nous accueillent en tant que très très grands débutants que personne ne connaît sont rares. Donc, si on te dit c'est un bar, tu vas jouer dans un bar. Et puis, si on te dit t'es debout sur une table dans un resto, tu seras debout sur une table dans un resto. Et si on te dit c'est un hôpital psychiatrique, tu vas à l'hôpital psychiatrique.
Mais ça veut dire qu'il faut une adaptabilité absolument phénoménale.
Mais c'est ce qui nous construit et c'est ce qui fait qu'au bout de 3-4 ans, on devient invincible en fait. Et on peut nous faire jouer devant. Le CE de telle entreprise où tout le monde est bourré et où tout le monde s'en fout. En fait, il faut visualiser le chèque, hein. C'est ça vraiment. On regarde loin devant. Il faut rentrer dans soi, faire le taf qui a été demandé. Et c'est ça qui permet après de faire face à n'importe quel public.
N'importe quel public. Alors, je vais parler de celui qui paie ses places. Élodie Pou, c'est plus facile ou pas forcément pour jouer après tout ça devant le public qui, lui, justement, a payé pour vous voir sur une vraie scène.
Le public qui paye. Il a envie de se marrer puisqu'il a payé pour se marrer, donc il sera plus enclin à se marrer. Si les scènes gratuites, c'est pas les meilleures, hein. On pourrait se dire ils sont contents les gens, ils ont pas payé ça.
Mais
non, en fait c'est les premiers à se lever et à se barrer dès qu'il y a une vanne qui leur plaît pas. Donc le vrai public, celui qui non seulement paye sa place mais qui en plus finit par venir parce qu'il sait exactement ce qu'il vient voir, celui qui vous connaît, là après c'est du gâteau. C'est d'ailleurs une zone de confort assez dangereuse parce que c'est dur de revenir en arrière après.
C'est formidable cet après-midi. On est en compagnie d'Élodie Pou, la nouvelle star du Punchline. On la retrouve immédiatement.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
La nouvelle reine du Punchline s'appelle Élodie Pou. Elle est mon invitée. Élodie Pou, vous vous souvenez précisément du jour où vous avez, mais alors de façon définitive, donné votre démission à l'Éducation nationale ?
Oui, j'ai écrit deux lettres de démission. Une pour la mairie, parce que c'est la mairie qui gère les accueils périscolaires, et une pour les centres de loisirs, parce que je faisais les deux en même temps. Et je me revois très très bien avec mes deux lettres devant la boîte aux lettres. Et voilà, j'ai posté ces deux lettres et j'ai dit allez, c'est parti.
Bon, le directeur d'école qui a pris ça, vous a pris pour une inconsciente irresponsable ou bien il vous a encouragé ?
Pas du tout, parce que avant de démissionner, il y a eu 2 ans ou 3 ans pendant lesquels j'ai fait les deux. Et c'est-à-dire que je m'absentais très régulièrement parce que quand on va jouer à Pétaouchnok ou à Tistou les bains de pieds, c'est dur d'être le lendemain matin à l'école. Donc je prenais des jours de congé par-ci, par-là. Ils ont vécu avec moi en fait ces années de entre les deux. Et non, ils étaient tous très contents que je parte vivre ça.
Bon, le matériau de vos sketchs dans le syndrome du Playmobil, c'est un matériau tabou, car sacré. Les enfants, on s'en moque pas. Hein. Surtout, on ne discrimine pas. Ce sont tous potentiellement des anges, sauf que ce sont des mini-nous avec déjà tous nos travers. Donc, vous avez mis le doigt sur un sujet en or, mais est-ce que, au fur et à mesure que vous avez fait des scènes de plus en plus importantes, il n'y a pas eu des plaintes de parents après certains sketchs ?
Comme tous les sujets qu'on peut aborder sur scène, il va y avoir une partie de la population pour qui c'est hyper drôle, et puis une partie de la population pour qui, oh mon Dieu, il ne faut absolument pas parler des enfants, etc. Certains ont même dit j'aurais tellement été triste que ma fille soit dans cette école avec elle, etc. Parce qu'ils ne font pas la part des choses. Pour eux, c'est du premier degré. Mais comme comme n'importe quel sujet, il y a forcément des gens qui ne vont pas, adhérer, qui me burlaient. Voilà, je me suis pris des torrents d'insultes, parce que comme quoi c'était grossophobe, comme quoi, etc. Mais c'est pas grave, parce que moi, au fond de moi, je sais pourquoi je fais ces vannes, je sais le message que j'ai envie de faire passer, et surtout, je sais les très très bons moments que j'ai passés avec les enfants et leurs parents pendant 12 ans.
Alors, 12 ans, oui, c'est pas anodin. Alors justement, les enfants dont vous occupiez en maternelle, Élodie Pour, eh ben, ils sont tous sur les réseaux sociaux désormais.
Ouais.
Ils vous suivent, ils vous demandent en ami, par exemple, sur Instagram.
Ouais, j'en retrouve très régulièrement.
Ah oui.
Bah ouais, qui commencent effectivement à avoir l'âge de voir Insta, de voir Facebook, et qui sont surpris souvent parce qu'ils me disent, je sais pas si tu te rappelles de moi, je m'appelle un tel, j'étais à l'école machin, et autant j'ai pas de mémoire pour certaines choses, autant les gosses, c'est vrai que je m'en rappelle. Et souvent je leur dis, bah oui, ton nom de famille c'est un tel, et puis un jour il s'est passé ça, un jour on a fait ça, ils me disent, ah tu te rappelles. Donc c'est vrai que je les retrouve, et ça fout un coup de vieux, mais ça fait plaisir quand même.
Bon. Pour vivre à peu près sereinement du métier d'humoriste, il vous a fallu combien de temps ? Parce que là, c'est un plongeon total dans l'aventure.
Oui, après, la chance que j'avais, c'est qu'animateur périscolaire, ça ne gagne rien. Donc, je ne partais pas de bien loin.
Pas grand-chose à perdre.
Voilà. Après, le statut d'intermittence, je l'ai eu très, très vite. Donc, je n'ai jamais eu à me soucier de ce problème-là. Et même si j'avais eu à m'en soucier, en fait, la passion est tellement forte à un moment donné qu'on se dit... Même si je dois retourner vivre chez ma mère et manger des pâtes, en fait, c'est pas grave, parce que la passion, elle est plus forte que ça.
Vous écrivez tous vos sketchs, et j'aimerais bien savoir comment vous les travaillez. Vous avez un metteur en scène ?
Oui. Ouais. Oui, oui. Donc au début, je jouais tous les mercredis soirs dans un bar à Nantes. Et donc pour tous les mercredis soirs, j'écrivais 5 minutes, 6 minutes dans mon coin, chez moi, parfois
donc,
même
par
pendant la sieste des enfants.
Puisque vous réécriviez chaque semaine ?
Non, c'était pas de l'actu, ça tournait encore beaucoup autour des enfants.
Ouais.
Mais il y avait des personnages, donc ça permet de tourner autour tout en restant dans ce sujet-là. Et puis je testais ça le mercredi après-midi, je filme tout ce que je fais. C'est comme ça que je travaille. Et le soir, je regarde ce qui a été filmé. Puis je dis, ça, ça ne va pas. Ça, on l'enlève.
Mais alors, le metteur en scène,
ça.
On le trouve comment ?
Et après, une fois que j'ai eu tous ces petits sketchs-là et que je les avais joués 5-6 fois, on est parti avec mon metteur en scène dans un théâtre, le Milandi, à Luçon. Et là, à partir de tous ces petits bouts de puzzle, on a construit
le spectacle. Oui, mais vous dites, on est parti avec mon metteur en scène. Quand on est au début d'une carrière, comment trouve-t-on un bon metteur en scène qui va passer du temps à upgrader votre travail ?
C'est lui qui m'a trouvé. Il était prof dans l'école de café-théâtre où moi j'étais élève. C'était pas mon prof,
oui.
Mais il m'a vu à la fin de l'année scolaire. Il m'avait repéré en fait. Et quand j'ai gagné une résidence à un tremplin jeune talent, donc c'est-à-dire qu'on m'a prêté un théâtre pendant une semaine, nourri, logé, blanchi, avec une équipe technique, avec etc. Et ben c'est lui qui est venu me dire si tu veux, je viens avec toi et on construit ensemble le spectacle.
Formidable.
Voilà.
Bon, votre physique. Est-ce que c'est un outil pour déclencher le rire ? Est-ce que dans l'humour, vaut mieux avoir une gueule ? Ou ça, c'était bon il y a 30 ans ?
Je considère comme une chance, personnellement, de ne pas avoir un physique de bombasse, de ne pas savoir bouger mon corps pour danser de manière lascive, de ne pas savoir chanter, parce que ça m'a permis de ne pas me cacher derrière ça et d'aller directement à ce que le public demande, c'est-à-dire de la vanne.
Ouais.
Moi, je me sers plutôt des tronches que je sais faire avec mon visage et des 2-3 voix particulières que je sais prendre, et c'est plutôt de ça dont je me sers.
Entre tout de suite, Élodie Pou.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Qui aime bien, châtie bien. Alors, Élodie Pou adore nos progénitures qu'elle a gérées pendant 12 ans en tant qu'animatrice périscolaire avant de triompher sur scène avec son spectacle, Le Syndrome du Playmobil, qu'elle va jouer partout en France, et même en Belgique d'ailleurs, à partir de fin février et les 22, 23 et 24 avril au Casino de Paris. Élodie Pou, dans les années 80, les humoristes étaient presque tous des hommes. Hein. Désormais, on peut presque inverser cette phrase. Le terrain de l'humour, il révèle beaucoup en fait, de l'émancipation féminine. C'est un indicateur. On le voit d'ailleurs avec Blanche Gardin. Est-ce que les femmes, sur scène, selon vous, osent plus que les hommes ?
Est-ce qu'elles osent plus ou est-ce que ça nous choque plus d'entendre une femme parler de ses règles ou de son vagin que quand un homme parle de ses de multiples relations sexuelles ? Si, je pense qu'il y a une parole qui s'est libérée. C'est vrai que Blanche Gardin a ouvert la voie. C'est vrai qu'elle raconte vraiment des horreurs avec beaucoup de talent et de douceur. Et, donc ça a dû ouvrir la voie à pas mal de femmes. Ouais.
Elles sont très 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 nombreuses, hein, les femmes humoristes.
Moi, je l'ai vu. Ma carrière est courte. Hein, ça fait 6-7 ans que je monte sur scène. Et il y a 6-7 ans, quand je faisais des scènes ouvertes, j'étais quasiment tout le temps la seule. ce qui permet d'avoir une loge pour soi tout seul alors que les hommes sont tous enfermés dans la leur. Et ben à la fin
Aujourd'hui il faut partager avec les copines.
C'est ça, on était plus nombreuses et puis alors maintenant c'est la grande mode des plateaux féminins. Donc où on invite que des femmes. Donc c'est vrai que oui, on en est nombreuses, ouais.
Élodie Pou, on peut faire rire sans se moquer.
Oui. On peut très bien faire des sketchs sur la fabrication du poisson pané si on a envie. Hein. Il en faut pour tout le monde.
Okay.
Après, chacun adhère à l'humour qu'il aime. Moi.
Alors Élodie, vous avez fait les premières parties d'Anneau Ducret et de Gaspard Proust qui sont l'un et l'autre dans des registres très très différents et très éloignés aussi du vôtre. Ça signifie qu'un même soir, face à un même public, tous les humours sont compatibles. Parce que j'ai du mal à imaginer une première partie pour Gaspard Proust, qui est génial, mais qui est clivant.
Ouais.
Donc, on peut mélanger et un même public adhère à des propositions si diverses.
Une première partie, c'est particulier, hein, parce que le public qui vient voir Gaspard Proust n'est pas celui qui vient voir Jean-Marie Bigard.
D'où ma question, voilà, alors ça se passait comment?
Ça s'est passé toujours bien, mais de manière très différente. C'est-à-dire qu'il y a des publics qui ne vont pas forcément adhérer à mon style d'humour. Donc ça se marre parce qu'ils sont venus se marrer de toute façon. Et qu'à partir du moment où c'est drôle, c'est drôle, donc ils rigolent. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus pris mon pied devant le public de Gaspard Proust, qui est un amoureux des mots et de la tournure de phrase et de la grosse, grosse saloperie, que devant certains autres publics. Ouais. C'est différent.
Élodie Pou, quand on assure la première partie justement de Gaspard Proust, on est choisi par lui, on est choisi par le tourneur, on est choisi par son manager. Ça
dépend de plein de choses. On peut avoir gagné le droit de faire cette première partie parce qu'on a gagné un tremplin ou parce qu'on a gagné un concours. Ça peut être lui. Ça m'est arrivé que ce soit les personnes elles-mêmes qui demandent que ce soit moi. Et puis ça peut être le tourneur, l'organisateur de. Ça peut être plein de monde.
Alors Élodie Pou, vous croulez sous les prix remportés dans des festivals d'humour. Et j'ai découvert que les festivals du rire, il y en a vraiment une flopée en France.
Ouais, il y en a
c'est
beaucoup.
C'est incroyable
beaucoup, beaucoup. Après, ça va du petit festival organisé par le Super U de Saint... de Sainte-Trottinette-sur-Loire.
Jusqu'au Festival du Rire de Marrakech.
Voilà, c'est ça. Et j'ai décidé de tous les faire. J'ai décidé de dire oui à chaque fois, sans me demander si c'était loin, proche, payé, pas payé, etc. Et donc, ça en fait beaucoup. Ouais.
Parce que, justement, les festivals, comme vous le dites, se suivent sans se ressembler. Ça, c'est le charme des tournées. Et vous avez d'ailleurs confié... Franchement, les tournées, c'est le grand écart, parce qu'il y a le patelin au nom absolument invraisemblable, d'où Jean-Jacques vient de chercher à la gare, dans son utilitaire plein de poils de chien. Et puis, il y a le festival du rire de Montreux, où on te reçoit dans un 4 étoiles avec spa, et où la maquilleuse te court après dans les couloirs juste pour recoiffer ta petite mèche. Généralement, même avec la notoriété acquise, ça penche plutôt de quel côté? Maintenant, par exemple, est-ce que les festivals d'humour de Super U vous demandent toujours? Vous les faites effectivement, comme vous nous le dites, ou vous êtes de plus en plus dans des festivals avec une renommée bien assise?
Je les fais plus parce que j'ai plus rien à y faire, tout simplement, et qu'il faut savoir laisser sa place à ceux qui en ont besoin, et parce que j'ai aucune envie d'y dire toi. Non, c'est vrai que les premiers festivals, et c'est dur, hein. Faut se lever à 6h pour prendre le train le moins cher parce qu'ils n'ont pas les moyens de vous faire venir, vous faire venir autrement. On dort, si on a de la chance, dans l'hôtel le plus pourri de la région, et si on n'a pas de chance, chez la belle-sœur de l'organisateur dans le grenier.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment, c'est épuisant. Hein. C'est la passion qui fait tenir, hein, parce que des fois, il y en a... Ils prennent pas en compte qu'il faut qu'on mange, quoi.
Et donc, à ce point.
Il y a des milliers d'anecdotes. Donc non, au bout d'un moment, on a plus envie de faire Montreux, Marrakech.
Voilà, alors justement, hein Marrakech, le Marrakech du rire, créé il y a 9 ans par Jamel, et qui a un rayonnement international, le Marrakech du rire, il se déroule dans un lieu inouï de beauté, le sublime Palais El Badi, construit à la fin du XVIe siècle, dans le pur style mauresque, donc construit par un sultan qui voulait célébrer sa victoire sur l'armée portugaise. Alors désormais, grâce à Jamel, chaque année, sous les étoiles, les gradins dans l'arène accueillent un public de plus en plus nombreux. Le show, il est retransmis sur la 6, c'est un événement. Et alors, je voudrais savoir, dans les coulisses, ça se passe comment, Élodie Pou?
Dans les coulisses, on ne croise pas grand monde puisque chacun est extrêmement concentré. Marrakech, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment, moi, ça m'a fait monter vraiment une grosse, grosse marche. Et comme tout ce qu'on fait qui est télévisé, on est très très concentré et très flippé parce que ce sont des images qui vont rester 20 ans hein, sur les réseaux
voilà.
et sur lesquelles vont se reposer beaucoup de gens pour savoir s'ils ont envie de venir nous voir ou pas. Donc c'est vraiment un gros challenge. Là, il y a énormément de monde, c'est en plein air. Comme c'est de la télé, le public est éclairé. En fait, toutes les conditions sont réunies pour que nous, on ne passe pas forcément un très très bon moment.
Dieu Mais merci. Nous, le public, on le passe.
Bien sûr. Dieu merci, c'est tourné en deux fois, donc ça permet, si on est déstabilisé le premier soir, de faire mieux le deuxième. Ouais.
C'est-à-dire que deux soirs de suite, en fait, il y a le même show qui est proposé.
C'est
et
ça, quasiment, parce qu'il y a des invités qui sont là ou pas. Et c'est eux qui choisissent le moment où on a été le plus à l'aise, où on a été le mieux. Ouais.
Qui sont vos amis dans ce métier, Élodie Pou?
Oh, il y en a plein. Après, il y en a qui vont se fâcher si je n'ai pas dit leur nom. Ah, il y en a plein.
Spontanément.
Julie Villers et Céline Groussard, avec qui j'ai joué dans une pièce pendant plusieurs années qui s'appelle Dommage, que nous laissons vivre maintenant avec d'autres comédiennes. Ramirez, Vizorek, enfin, je pourrais y passer, de longues minutes. Je ne voulais pas que je vous dise qu'ils ne sont pas mes amis.
Bon, ça, c'est pour dans quelques instants. Allez, on s'interrompt vraiment un bref moment et on retrouve tout de suite la nouvelle star du rire, Élodie Pou.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Elle a gagné 33 prix dans 23 festivals d'humour, et pas l'inverse, hein, c'est comme ça. Élodie Pou, qui est en tournée dès février avec le syndrome du Playmobil, s'emparera du Casino de Paris les 22, 23 et 24 avril. Et c'est en sa compagnie qu'on se balade cet après-midi. Alors, chère Élodie Pou, le tout premier prix que vous avez remporté est celui du Festival du Souffleur d'Arundel. Voilà, d'abord j'ignorais qu'il existait ce festival, on dirait carrément un titre de roman. Hein. C'est très joli, le festival du souffleur d'Arundel. Mais il paraît que ce prix est à l'origine carrément de la création de votre spectacle, Syndrome
Tout
du
à fait,
Playmobil.
Alors c'est au pied de la tour d'Arundel, en Vendée, à la Chaume.
Alors on dit Arundel.
Et c'est en plein air aussi. Et puis voilà, je me suis inscrite, j'ai gagné cette fameuse résidence dans un théâtre à Luçon, grâce à laquelle j'ai pu construire le spectacle. En plus, dans le public, il y avait monsieur mon producteur, enfin qui ne savait pas encore qu'il était mon producteur. Donc j'ai vraiment tout gagné ce soir-là. Ouais, c'est
tout gagné ce soir-là. Bon, est-ce que vous écrivez pour les autres?
Oui, j'ai écrit un sketch pour Anaïs Petit, qui est humoriste et imitatrice. Je co-écris et je mets en scène une jeune humoriste qui s'appelle Charlotte Boisselier, qui nous a rejoint dans la prod il n'y a pas très longtemps, qui joue à l'Apollo en ce moment. J'y prends beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup ça.
Bon, alors j'imagine qu'une humoriste ne peut épouser qu'un garçon qui a presque autant d'humour qu'elle. Hein. C'est le cas pour votre mari?
Oui, tout à fait, puisque c'est son métier à lui également. Il est humoriste et comédien, donc voilà, on s'est bien trouvés.
Ah,
on s'est rencontrés sur scène.
Vous êtes rencontrés sur scène?
Ouais.
D'accord, il ne s'appelle donc pas Pou.
Non, il s'appelle Michel Frénat.
Michel Frénat, d'accord. Et en ce moment, d'ailleurs, il joue où?
C'est ça, il joue à l'Apollo dans Les Égoïstes Anonymes et son spectacle Amour, Humour et Rock'n'Roll dans toute la France.
Bon, le bébé à naître, dans très peu de temps, forcément avec un ADN pareil, il y aura de l'humour.
Bon,
votre mari est le premier lecteur de vos sketchs, Élodie Pou. C'est lui, par exemple, qui les valide? Ou bien, finalement, le tri se fait face au public?
Valider, non, puisque je finirai toujours par faire ce que je veux à la fin. Mais c'est vrai que c'est très sympa d'avoir quelqu'un du métier, mais qui est quand même une grande objectivité, à qui montrer pour la première fois les premiers jets et qui dit ça marchera pas, ça c'est drôle, ça je pense que tu devrais le mettre dans l'autre sens. Et parfois, juste avec une idée, il arrive à transformer un truc dont j'étais pas sûre en chose très drôle. Donc c'est vrai que c'est le premier lecteur. C'est pas le valideur, mais c'est le premier lecteur.
Vous en faites autant pour lui?
Et je fais la même chose pour lui, c'est ça.
Élodie Pou, vous avez quitté Nantes pour vous installer à Paris. Paris, c'est l'adresse obligée quand on devient la nouvelle coqueluche des médias?
Je l'étais pas du tout quand je suis arrivée. Bah, comme dit d'ailleurs mon mari, si on veut étudier les kangourous, il faut aller en Australie. Et quand on veut faire du théâtre, il faut monter à Paris. Il n'y a pas le choix.
Bon, à Paris, il y a un nombre absolument hallucinant de scènes entre les cafés-théâtres, les bars, les scènes ouvertes qui proposent donc chaque jour des spectacles d'humour et puis des jeunes talents. On les compte par centaines. Elle vous plaît, cette émulation-là? Vous sortez beaucoup quand vous n'êtes pas sur scène pour respirer l'air et l'humeur du temps?
Vous me verrez rarement dans un théâtre quand j'y suis pas pour jouer, parce que j'y passe déjà tellement de temps que...
C'est vrai?
Oui, je vais voir... Si j'ai vu quelqu'un dans un festoche faire un 10 minutes que j'ai adoré, je vais peut-être aller voir son spectacle, mais on n'a pas envie de retourner s'enfermer au théâtre quand on y passe déjà 7 jours par semaine.
En tout cas, nous, on y va au théâtre pour écouter Élodie Pou. Élodie, sur scène, ça donne... ça.
T'as vu, Carole, ils ont mis des animaux dans le parc. Carole, un zèbre. Un énorme... Oh, je suis con, c'est ta fille. Bonjour, Kimberley. Oui, bah tu la nourris pas, elle a de l'avance. Non, Kimberley peut pas venir prendre le goûter à la maison, tu rigoles des genoux, elle va nous niquer les vivres. Non, elle rentre chez... Elle rentre chez... C'est pas la peine d'assez vous... Eh, alors vous... Eh, oh, ouh. Ouh, les gros yeux. Ouh, maman fait la chouette. Attention, hein, sinon maman, elle appelle le gros monstre, hein, celui qui pue, celui qui pète. Celui qui ressemble à mamie Jeannette. T'inquiète, ils ont les vitides. En parlant de monstres, quand je te regarde, Carole. Je me dis que j'ai bien fait de faire ma vie comme ça. Moi, je voulais plein d'enfants, mais je voulais pas de leur père à la maison. Non, merci. No fucking way. Pas question. Ah bah tiens, regarde, Sun Lee, par exemple. Sun Lee, E.R. Sun Se Uli Uchiba Joshur. T'inquiète, elle a l'habitude. Tu vois, Sun Lee, eh ben, si j'étais restée ne serait-ce que 2 semaines de plus avec son père, ça aurait pas fonctionné. Oh ah bah déjà, vivre en Chine, non merci, je déteste les samoussas. Oh, et puis tu sais, Carole, la légende est vraie. Carole, bah les Chinois. T'as déjà vu un tic-tac avec une perruque de clown? Ah ben moi, des fois, je me réveillais même pas. Enfin, bon. Comme dirait le père de Boris, « Dragaï de valet del telmec avec un berakan peregna, kik beselnek. » Kik beselnek. Je sais pas ce que ça veut dire. François, pourquoi tu pousses ton frère? Pourquoi tu... Ben, c'est lui qui t'a demandé de le pousser. Sur la balançoire, couillon, pas dans la caillasse. Tu vas partir en colo, mon vieux. Je sais pas, chez Picard. Tu sais, François, je suis ta mère et je t'aime énormément. Je t'ai donné la vie. Eh ben, je peux la reprendre. T'inquiète, il a l'habitude. Tu vois, moi, mes enfants, Carole, je leur pose chacun une photo de leur père au-dessus de leur lit. Je trouve ça très important, même si ça leur procure souvent des cauchemars. Surtout Boris. Boris fait énormément de cauchemars de son père, hein, Boris? Boris?
Papa!
T'inquiète, il a l'habitude. Il vomit à chaque fois.
C'est en compagnie d'Élodie Pou qu'on se balade cet après-midi. C'est épatant. On la retrouve tout de suite.
Europe 1.
Non, Élodie Pou n'est pas un pseudo. Oui, Élodie Pou a un talent phénoménal. Allez la voir en tournée à partir de février, fin février, avec son spectacle baptisé le syndrome du Playmobil. Spectacle qui va d'ailleurs lui offrir les clés du Casino de Paris les 22, 23 et 24 avril. En fait, Élodie Pou, on vous retrouve sur scène fin février, car d'ici là, vous allez pouponner votre premier enfant. Il va faire son arrivée en fanfare autour de quelle date, ce bébé?
Autour du 20 octobre, c'est-à-dire demain. N'importe quand à partir d'aujourd'hui.
Bon, personne ne sait mieux que vous s'occuper d'un petit, puisque c'était votre premier métier. Vous avez le trac avec lui?
Ah non, pas du tout. Non,
pas
non.
Du tout.
Non, non, bah, j'ai grandi au milieu de mes frères et sœurs. Les deux derniers sont très... On a beaucoup, beaucoup d'écart, donc j'ai changé de la couche et j'ai biberonné déjà. Et non, je me dis que tout va bien se passer.
Vous lui apprendrez l'humour, hein, tant que l'humour puisse s'apprendre.
C'est ce que j'allais dire.
D'ailleurs, est-ce qu'on apprend? Ça s'apprend? On apprend à être drôle?
Non,
pas
on
du
peut,
tout.
Non, non.
C'est dans les gènes.
On peut en être entouré depuis toute sa vie et puis ne pas aimer ça et ne pas y adhérer. Ça se voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, hein. Certains en sont totalement dépourvus.
Donc, la tournée va reprendre fin février. Vous allez vraiment sillonner toute la France. Vous allez même aller à Bruxelles, à Liège. Et j'aimerais bien savoir, le cinéma, Élodie Pou, c'est pour quand?
Bah, quand on me le proposera. J'ai fait des petits castings par-ci par-là. C'était pas le cinéma, c'était la télé. Je sais pas, si ça arrive, c'est cool. Et puis, moi, je suis prête.
Je devine que vous en avez envie.
Oui, vous aussi, vous m'entendez. C'est vrai que petite,
vous entendez,
je rêvais...
les producteurs et les distributeurs.
Je rêvais plus de cinoches que de scènes quand j'étais petite, ça c'est vrai.
C'est vrai.
Ouais, je faisais des making-of de films dans ma chambre.
pour une humoriste, passer de la scène au cinéma, c'est pas le virage le plus simple à négocier, hein, non ?
C'est deux métiers vraiment très 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 différents. C'est vrai qu'il n'y a pas de public, c'est des caméras, il faut répéter 58 fois la même phrase.
Et puis l'impact ou non d'un film, c'est quelque chose qui a une onde comme ça de choc qui reste, n'est-ce pas, dans les médias. Donc on peut être un humoriste absolument exceptionnel, pas se trouver dans le meilleur film au bon moment.
Et en pâtir.
Donc,
mais en tout cas, c'est une expérience que j'aimerais bien tenter, ouais.
Elle va faire du cinéma, Élodie Poux. Bon, l'écriture du prochain spectacle, vous allez la peaufiner entre les biberons.
Oui, elle est en cours. Il y a une partie de mon cerveau qui me dit « fais ça maintenant parce qu'après tu ne pourras plus » et une autre partie de mon cerveau qui dort. Hein, donc, ce n'est pas trop possible de travailler. Non, c'est particulier d'écrire écrire pendant le confinement, ça n'a pas été possible. Je m'étais dit « chouette, ça me fait des journées entières. »
Ça ne vous inspirait pas du tout, en fait.
Aucune des personnes à qui j'en ai parlé dans le métier n'a travaillé pendant le confinement parce qu'on ne vit rien. Ouais. Et pour créer, on a besoin de vivre des choses. Et ce n'est pas en restant enfermé dans un appartement, dans l'angoisse la plus totale, en annulant toutes nos dates ou en voyant nos pauvres équipes techniques ne pas pouvoir travailler, etc., qu'on a envie d'écrire de la blague. Maintenant, ça va mieux, maintenant qu'on est déconfiné. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une période propice. Là, je m'y remets plus parce que voilà, l'écriture revient. L'écriture pour les chroniques, l'écriture pour la radio, l'écriture pour des émissions. Il y a une émulation qui fait que l'écriture revient.
Bon, est-ce qu'il vous arrive encore de faire des cauchemars où vous êtes prise en otage dans une cantine scolaire ?
Oui. Oui. Ça m'arrive de rêver que je dois retourner bosser en école maternelle et c'est jamais très très agréable. Et à chaque fois, quand je me réveille, je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait ce jour-là. Et d'ailleurs, j'engage tout le monde à démissionner de son emploi s'il a envie de faire autre chose parce que c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie.
En tout cas, nous, on s'en réjouit. Bon. La fin du mois d'avril sera joyeuse à Paris, puisque Élodie Poux sera au Casino de Paris les 22, 23 et 24 avril. Avant, bien sûr, elle sera en tournée partout en France. Après aussi, vous emmènerez le bébé ?
Oui.
Il sera dans son couffin dans les coulisses ?
Tout est prévu pour que... Pas que cet enfant soit élevé par quelqu'un d'autre que moi, sinon ça ne sert à rien de le faire.
Ben voilà.
Donc voilà, puis il a un papa aussi, hein, donc ce sera un enfant de la balle qui va effectivement peut-être faire ses premiers pas dans une loge ou sur une scène, et je trouve ça sympa.
Alors plein de baisers à cet enfant de la balle qui arrive très très bientôt. Merci infiniment, Élodie Poux. Et je rappelle le titre du spectacle, parce qu'Élodie va passer vraiment en tournée, forcément près de chez vous, le syndrome du Playmobil. À bientôt.
À bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.